à la découverte du terroir gustatif avec Camille Vindras.
Bon, alors je me présente, Camille Vindras, je suis chargée de mission à l'Institut technique d'agriculture biologique et je travaille donc sur des problématiques de biodiversité cultivée, de sélection participative et d'analyse sensorielle. Donc vous allez comprendre un peu de quoi je parle avec cette présentation. Et je vais vous parler de terroir gustatif, ou plutôt comment cultiver la diversité génétique favorise l'expression des terroirs. Ce que j'appelle déjà cultiver la diversité génétique, j'entends par cette expression-là, cultiver une gamme de variétés d'une même espèce dans son champ, c'est-à-dire plusieurs variétés de tomates, plusieurs variétés de carottes, plusieurs variétés de blé. Et la culture de cette diversité repose sur le principe de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que face à un aléa climatique, une sécheresse par exemple, ou une inondation, si tous les individus sont identiques, sont des clones, on va avoir une perte totale de récolte. Alors que si on est sur une population qui est hétérogène génétiquement, elle va, leur réaction par rapport à cette variation environnementale vont varier. Et on va avoir des récoltes réduites, mais on ne va pas avoir une perte totale de récolte. Donc ça permet vraiment de stabiliser les rendements. Et c'est cette stratégie qui est employée par la sélection paysanne. Et donc c'est cette stratégie-là, donc de cultiver la diversité génétique, qui est employée en ce moment par qui est employée par le réseau semences paysannes. Et donc il y a une nouvelle sélection paysanne en ce moment qui est en train de renaître. Et les variétés qui sont issues de cette sélection sont appelées populations ou variétés paysannes. Elles ont pour caractéristique d'être hétérogènes génétiquement, c'est-à-dire d'avoir vraiment des différences, même phénotypiques, on le voit visuellement. Elles sont hétérogènes. Et cette hétérogénéité-là leur confère une capacité d'adaptation aux environnements, aux changements climatiques, parce qu'elles vont pouvoir se croiser entre elles et évoluer avec les environnements et s'adapter. Ces variétés, elles présentent également des caractéristiques qualitatives très intéressantes au niveau sensoriel, mais également nutritionnel, mais elles vont être adaptées à un marché particulier. Donc, pour l'exemple des variétés population de blé, ça va être adapté à une transformation au levain artisanale. Et elles ne vont pas pouvoir être panifiées en mode industriel, c'est-à-dire mécaniquement, avec une forte intensité de pétrissage. Pour les tomates anciennes, c'est pareil, les vraies tomates paysannes, pas les cœurs de bœuf hybrides qu'on trouve dans les supermarchés, ces variétés-là ne supportent pas, les variétés anciennes ne supportent pas plus de 100 km de transport. Et donc, elles vont être destinées plutôt à des circuits courts. Donc, c'est des variétés qui vont vraiment correspondre à un marché particulier, mais qui peut être développé et multiplié. Et le souci de ces variétés, par contre, c'est que comme elles sont diverses génétiquement, on va avoir du mal à prédire leur comportement. Ça va être très complexe de dire quel rendement elles vont faire si on les met dans un environnement tel ou un autre environnement quand on est sur du court terme. Par contre, sur du long terme, si on va les laisser évoluer, et ben là, elles vont se stabiliser et on va avoir des rendements plus stables qui vont être moins élevés que des variétés modernes, mais des rendements prévisibles. Et pour pallier, en fait, à ces problèmes de prédictibilité, pour améliorer la prédiction des rendements et augmenter les rendements, les sélectionneurs ont développé des variétés qui sont homogènes génétiquement, c'est-à-dire qu'ils ont développé des variétés, des clones. Donc tous les individus d'une variété lignée pure sont des clones. Ces variétés, elles sont adaptées à la panification industrielle, parce qu'elles ont été aussi développées pour avoir une forte teneur en protéines. On a le même exemple aussi pour les tomates. Donc les tomates ont été sélectionnées aussi pour leur texture ferme, pour qu'elles puissent être transportées et rentrer dans un circuit long de commercialisation. Donc cette sélection moderne, elle a permis de prédire les rendements et de les augmenter. Elle a également aussi dirigé la sélection vers des critères de qualité qui correspondaient à un marché, au nouveau marché industriel. Et cette sélection a également mis de côté du coup tout ce qui était qualité nutritionnelle et on a assisté à un phénomène de dilution nutritionnelle de dilution de la densité nutritionnelle, donc des produits issus de cette sélection moderne. Donc ces variétés-là, ces lignées pures, homogènes génétiquement, elles ne correspondent pas à ce qu'on attend en agriculture biologique. Parce qu'en agriculture biologique, on veut des variétés robustes, donc capables de concurrencer les adventices, capables de tolérer les stress abiotiques, c'est-à-dire les stress qui viennent de l'environnement, et capables de résister aux stress biotiques, c'est-à-dire aux stress qui proviennent des animaux, des maladies, des insectes. On cherche également la stabilité pour ces variétés, donc c'est-à-dire une résilience, mais la stabilité sans ajout d'engrais, sans ajout, sans artificialiser le milieu. parce qu'on va avoir cette stabilité avec des variétés modernes, mais on va artificialiser le milieu. Et également, en agriculture biologique, on va chercher aussi à sélectionner pour, sur des critères de qualité nutritionnelle et sensorielle, parce que ce sont des considérations qui sont très importantes pour les agriculteurs, mais également pour les consommateurs en agriculture biologique. Et donc, vous allez voir que cette notion de qualité est de plus en plus intégrée dans, dans les choix variétaux de ces paysans. Donc concrètement, comment ces paysans ils font pour développer une nouvelle diversité paysanne? Donc ils vont utiliser plusieurs stratégies qui sont complémentaires. Donc ils vont essayer de diversifier la structure génétique de leur population en ressortant du coup des variétés anciennes oubliées qui dormaient dans des banques génétiques. Et ils vont les remettre en culture dans plusieurs environnements et ils vont les observer pendant plusieurs années pour voir comment elles se comportent sur les différents environnements. Et ça, ça va permettre, donc chaque fermier va pouvoir regarder dans son environnement comment se comporte la diversité des variétés et va pouvoir choisir les variétés, je ne dis pas forcément là, mais les variétés qui lui correspondent le plus à son sol, mais également à ses attentes et aux attentes de son consommateur. Et ça va permettre vraiment d'adapter les cultures au contexte pédoclimatique, c'est-à-dire le sol, mais également socioculturel, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte aussi les attentes du consommateur. Et généralement, tout cela se fait effectivement selon une organisation participative, c'est-à-dire qu'on va demander l'avis un peu à tout le monde et les choix vont se faire de façon participative. Donc, pour être plus concret, je vais vous présenter 3-4 exemples d'initiatives paysannes. Donc, ce sont des associations d'agriculteurs qui ont ressorti donc, des variétés anciennes, oubliées, qui les ont mis en champ et qui ont fait plusieurs années de travaux de sélection et qui ont abouti à la création d'une nouvelle diversité paysanne. Et donc, ils arrivent à des variétés, effectivement, qui vont arriver après à marquer variété paysanne pour le valoriser. Donc, la sélection paysanne en maïs a débuté en 2001 en Aquitaine avec un programme régional qui s'appelait Cultivons la biodiversité. Les objectifs de sélection de ce groupe d'agriculteurs, c'était de développer, enfin, d'identifier, de trouver des variétés qui étaient adaptées à des conditions en manque d'eau. C'est-à-dire qu'en agriculture conventionnelle, le maïs en Aquitaine est irrigué, mais en agriculture biologique, le maïs en Aquitaine n'est pas irrigué et les variétés ne répondent vraiment pas bien à ces conditions de sécheresse. Du coup, il fallait trouver des variétés qui étaient adaptées à ces conditions-là. Et en plus, pour donner un peu plus de valeur aussi ajoutée à leur maïs, ils voulaient identifier des variétés qui avaient une qualité nutritionnelle particulière pour pouvoir développer une filière derrière alimentation humaine. Et de cette initiative qui continue, donc il y a encore des projets en cours, et il y a eu un projet qui s'est clôturé il n'y a pas très longtemps, est sorti notamment un livre de recettes qui s'appelle « De ceux qui sèment à la cuisine », et où il y a tout plein de recettes de ces semences paysannes, et comment les cultiver en polenta, en gâteau. Et donc c'est vraiment un moyen d'essayer de valoriser ces variétés-là. Un autre exemple, c'est l'histoire du chou. Il y a une grosse pénurie de semences en agriculture biologique en termes de choux. Jusqu'à présent, les agriculteurs bio, ils ont droit de demander des dérogations et de semer des graines conventionnelles pour cultiver en bio. Ils ont droit de le vendre en bio. Mais ça pose quand même des problèmes et du coup, il faut vraiment trouver des variétés qui sont adaptées aux environnements parce que les variétés qui sont disponibles ne correspondaient pas aux attentes de ce groupe d'agriculteurs qui s'appelait, donc c'était une association Kaolkoz. Et donc, ils ont ressorti des variétés des ressources génétiques. Ils ont sélectionné pendant 3-4 ans, ils ont sorti le brocoli violet du Cap qui commercialise maintenant, donc sous biobraise, et qui est bien identifié légumes issus de semences fermières et résultat de la sélection participative. Donc ils arrivent vraiment aussi à valoriser finalement tout le processus qui a mené à cette nouvelle diversité paysanne et à le valoriser même jusqu'aux consommateurs. Nous avons un autre exemple ici qui est la carotte violette de la Loire. Donc vous allez vous dire c'est bizarre, elles sont tous violettes et tout, mais c'est vrai que dans la diversité génétique, il y a une grande variabilité des anthocyanes de tout ce qui donne la couleur de ces variétés aux légumes. Et quand on va dans des champs de sélectionneurs, on peut regarder un champ de blettes et on va avoir toutes les couleurs d'arc-en-ciel et c'est tout à fait naturel. C'est vraiment des variations qui sont dues des variations génétiques. Et donc cette carotte violette de la Loire, c'est un groupe donc qui s'appelle BioLoire Océan. Un groupe d'agriculteurs qui sont allés chercher un certain nombre pareil, de carottes et qui se sont fait assister aussi par des chercheurs de l'INRA. Pendant 10 ans, ils ont donc observé ces variétés dans les différentes fermes et ils ont identifié cette carotte qu'ils ont appelée donc, la carotte violette de la Loire et qui est actuellement commercialisée en Pays de la Loire, donc vers Angers. Et elle est en étude dans un projet aussi avec Biocoop, en partenariat avec Biocoop, et on va essayer vraiment de d'assurer un marché à cette carotte, une valorisation, parce qu'elle a une plus-value sensorielle. C'est vrai que ces expériences-là, je vous les montre parce qu'elles ont la particularité vraiment d'avoir pris en compte la qualité sensorielle et nutritionnelle des légumes dans la sélection, ce qui est très très peu courant, ce qui n'existe pas en conventionnel, on va dire, et qui apparaît de plus en plus en agriculture biologique. Pour vous parler un peu de mes travaux à moi, mais très très brièvement, j'ai effectué une thèse moi sur les blés population et l'objectif était d'optimiser la qualité des pains au levain à partir de blés population parce que justement les qualités sont extrêmement variables d'un environnement à l'autre. Et en gros, une des tâches a consisté à étudier l'influence relative de l'environnement, donc du sol, de la variété, mais également du boulanger sur la qualité sensorielle du pain derrière. Et très brièvement, il en est ressorti un terroir panicole, à l'instar en fait d'un terroir viticole, c'est-à-dire qu'une variété cultivée sur un environnement qui a été transformée par un paysan boulanger donne lieu à une qualité sensorielle très particulière, parce qu'il va vraiment y avoir la pâte du boulanger. Et le terroir viticole, c'est vraiment ça la définition, c'est l'environnement, la variété, l'impact de la transformation humaine qui donne cette qualité-là au final. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'effectivement, il est possible de valoriser cette qualité et peut-être de rendre ces titres de noblesse au pain comme au vin. Et il y a déjà plusieurs initiatives qui sont déjà en œuvre hein, et qui sont en cours également. Dans le 04, on est en train de développer un terroir panicole, j'appelle ça comme ça. Mais là, on voyait le pain du Luberon, le pain aux céréales du Trièves. Et il y a de plus en plus d'associations du réseau Semences Paysannes qui cherchent à aller un peu vers cet objectif filière parce qu'il permettrait vraiment aussi de développer de plus grandes quantités de variétés population et de passer au changement d'échelle dont tout le monde parle effectivement en agriculture biologique parce que ces variétés population jusqu'à présent sont vraiment adaptées à la filière paysan-boulanger donc intégrées et à petite échelle quoi. Et on essaye de développer à plus grande échelle. Il y a une conférence d'ailleurs de Selnat aujourd'hui, cet après-midi, qui va parler des... Il parle de variétés anciennes, mais c'est des populations de pays. Donc tous ces travaux, ils ont été faits souvent menés par des associations d'agriculteurs, mais menés en partenariat avec des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens. Dans le cadre de projets de recherche, dont vous voyez divers noms qui ne vous parleront pas. Donc, ces projets de recherche se font selon donc, un mode participatif. Les expérimentations sont à la ferme, décentralisées, c'est-à-dire que c'est vraiment l'agriculteur qui va expérimenter, qui va observer. On lui donne des grilles d'évaluation, on fait des réunions régulières pour aller regarder dans les champs des uns et des autres, et on va travailler comme ça, et on va améliorer finalement la connaissance sur la qualité de cette grande diversité existante. Et tous ces projets se basent donc vraiment sur une hypothèse commune, qui est que la diversité favorise la stabilité des performances, et on a des résultats qui commencent à aller dans ce sens-là. Et ils visent également à développer donc, des approches intégrées de la sélection et des pratiques, donc, c'est-à-dire des approches durables, des performances qui soient stables, des performances en termes de qualité, mais en termes de rendement également, parce qu'il faut pouvoir produire. Et donc, ces projets sont de plus en plus intégrés. Et pour justement ces approches intégrées se caractérisent par des projets qui sont aussi de plus en plus du champ à l'assiette, et qui vise à optimiser le système alimentaire, pas le système agricole, mais le système alimentaire bio. Et donc, cette approche du champ à l'assiette, elle conduit à prendre en compte aussi les attentes du consommateur. Les attentes du consommateur biologique, actuellement, elles sont effectivement, il va acheter un produit biologique parce qu'il sait qu'il va il va agir sur l'environnement. Il va acheter un produit qui est sans pesticides, donc ça va être bon pour sa santé. Et il y a également cette notion de plaisir qui est nouvelle par le consommateur. Et du coup, cette approche du champ à l'assiette amène à considérer vraiment ces notions de qualité nutritionnelle et impact sur la santé, mais également qualité sensorielle, parce que les études consommateurs les études consommateurs permettent d'intégrer vraiment ces attentes dans la sélection. Et les verrous qui ont été mis en évidence, c'est le prix payé pour l'agriculture bio et le fait que le consommateur ne perçoit pas de différence entre un produit AB et AC. Donc c'est vraiment au niveau de la perception, finalement, que se jouent les verrous de la consommation bio dans les études qui sont montrées. Ce qui fait que s'intéresser finalement à cette qualité sans dire on va sélectionner pour la qualité et que sur la qualité, va permettre peut-être de lever un certain verrou de consommation et de favoriser la consommation de tels produits. Et donc c'est là, je précise, que je ne dis pas qu'il faut sélectionner pour le goût, mais quand je parle de terroir gustatif, c'est d'utiliser cette diversité génétique, ces potentiels d'expression de la variété dans les différents environnements, et ce qui va permettre finalement de favoriser l'expression du terroir. C'est-à-dire que quand on va plus loin dans ce schéma-là, on va avoir des agriculteurs qui vont avoir des variétés qui sont très adaptées à leur environnement, qui vont pouvoir qualifier qui vont pouvoir qualifier leur comportement agronomique, leur qualité sensorielle et nutritionnelle. Ils vont pouvoir mieux communiquer aussi sur leurs produits. Et c'est vraiment là où je veux en venir quand je parle de terroir gustatif. C'est vraiment utiliser cette diversité pour optimiser l'expression de la diversité variétale sur les différents environnements. Un exemple, c'est la tomate Raf. Donc, c'est une tomate en Espagne qui est vendue maintenant partout dans le monde, qui est reconnue pour ses propriétés organoleptiques. Et en fait, elle est cultivée dans de l'eau salée. Et cette eau, on peut presque rien cultiver normalement dans une eau salée. Mais ils ont fait une recherche variétale pour trouver une variété qui pousse vraiment bien dans ce milieu-là et qu'ils arrivent extrêmement bien à valoriser. Et il y a plusieurs initiatives de cette teneur qui dans le monde et qui montrent que c'est pas forcément une variété qui va produire énormément et qui va être intéressante aussi sur les qualités. Le problème pour prendre en compte les qualités sensorielles dans le processus de sélection, c'est la complexité de la perception sensorielle. En effet, la perception, elle est subjective, elle est contextuelle, elle est cognitive. C'est l'image de la Madeleine de Proust. Parce qu'on va avoir vraiment les sens qui vont être associés avec le système, avec le centre de la mémoire et des souvenirs. Et donc, c'est très difficile de mesurer la qualité sensorielle de façon objective. Et toute la question de l'analyse sensorielle, c'est d'objectiver le subjectif. Mais cette complexité, elle est illustrée par la différence qu'on fait entre qualité hédonique et qualité analytique. C'est-à-dire que quand on va s'intéresser à la qualité d'un produit, on va soit s'intéresser aux préférences du consommateur, et ce qu'il aime, il n'aime pas, et pourquoi. Et donc, on va parler de qualité hédonique. Et d'un autre côté, on va essayer de s'intéresser à la qualité intrinsèque du produit. On va essayer d'obtenir une carte d'identité sensorielle du produit, donc une note d'intensité par descripteur, amer, sucré, salé, etc. Et pour mesurer cette qualité, il faut un entraînement, il faut entraîner un panel, un groupe d'individus, il faut les caler sur un même référentiel pour qu'ils soient répétables et pour qu'on puisse dire que j'ai 5% de chance d'avoir tort de dire que cette variété-là a tel goût. C'est comme ça l'analyse sensorielle. Mais ça coûte très cher. En prestation, ça peut coûter 10 000 euros. Et du coup, vous voyez que prendre en compte ces aspects-là dans un réseau participatif peu financé, ça devient compliqué. Mais heureusement qu'il y a des alternatives moins coûteuses qui donnent des résultats un peu moins fiables, un peu moins détaillés, mais qui sont fiables et qui peuvent être mises en place dans le type de réseau dont je vous parle actuellement. Et c'est l'essentiel de mes travaux actuellement, c'est apporter de l'expertise sensorielle à des agriculteurs, faire du criblage, comparer des variétés sur les qualités sensorielles avec des méthodes alternatives telles que le napping. Et essayer de communiquer vers les consommateurs sur ces initiatives. Alors, la méthode, ça s'appelle une épreuve de napping que j'utilise le plus souvent. Donc, ça utilise l'expertise des dégustateurs. Donc, souvent, je vais utiliser, par exemple, pour le pain, je vais utiliser des paysans boulangers. Et c'est une épreuve qui permet de visualiser, mais vraiment de façon visuelle, l'influence des différents facteurs. C'est-à-dire qu'on va avoir... le dégustateur a une nappe devant lui et il va positionner les produits selon leur ressemblance ou leur différence. Et donc ça va être une mesure des distances sensorielles. Il n'y a pas besoin d'entraînement parce que c'est une mesure qui est spontanée et qui va utiliser en plus l'expertise des individus. Et donc c'est une méthode qui permet de dire finalement ma variété, les groupes que j'obtiens sur ma carte, c'est des groupes de variétés ou c'est des groupes d'environnement. Et je vais pouvoir dire le facteur qui influence de façon déterminante la qualité, c'est la variété ou c'est l'environnement ou c'est le sol. Voilà, et c'est des méthodes qui ont été développées aussi pour le vin, parce que les transformateurs ne sont pas des œnologues, devaient payer très très cher pour faire leurs analyses sensorielles, et disaient, mais nous on a cette expertise, on peut aussi analyser nos vins, on n'est pas obligé de passer par cette étape et payer très cher pour qualifier nos vins, on peut le faire nous-mêmes. Et cette méthode a été développée d'abord dans ce cadre-là. Et du coup, elle est extrêmement adaptée dans le cadre de la filière paysan-boulanger, et je le fais aussi sur d'autres espèces, parce qu'elle permet vraiment d'étudier l'influence des différents facteurs. Et donc, pour expérimenter et communiquer sur la qualité de ces variétés et populations, l'ITAB met en place des actions pour favoriser l'intégration de la qualité sensorielle dans les choix variétaux. Donc, c'est les expérimentations dont je vous parle. C'est des formations en analyse sensorielle aussi que je propose aux agriculteurs, souvent des paysans du réseau Semences Paysannes. Et également des actions pour communiquer sur la diversité gustative des produits en bio. Ce projet, il se déroule en fait en deux phases. Il y a une phase qui est plutôt amont, où on va mettre en place des expérimentations pour essayer de comparer les variétés, pour caractériser les terroirs gustatifs, pour mieux comprendre la qualité, mais également pour apporter une expertise sensorielle aux agriculteurs, c'est-à-dire à chaque récolte. On va déguster les différentes variétés qu'ils ont mis au champ, on va trouver des descripteurs adaptés, et ça va leur apporter vraiment la capacité, l'expertise sensorielle pour améliorer leurs choix variétaux. Le deuxième volet, et là il vous concerne, c'est des dégustations au grand public. C'est pour d'une part tester les préférences, mais également échanger et discuter autour de la diversité gustative. Et là, juste après à la sortie de la salle, j'ai râpé 8 variétés de carottes qui ont été cultivées sur un environnement, et je vais vous proposer une dégustation donc, de 8 variétés de carottes bio. Le contexte, comme ça vous saurez si vous voulez venir déguster ce que vous dégustez. Le contexte, c'est que les agriculteurs bio, donc de l'ADABIO, n'auront plus le droit bientôt de cultiver une variété qui est conventionnelle en bio, parce qu'ils n'auront plus le droit aux dérogations. Mais cette variété, c'est vraiment la variété star. Tous les consommateurs la veulent et elle pousse très très bien. Les agriculteurs comme les consommateurs l'adorent. Mais ils ne vont plus pouvoir le faire. Du coup, ils sont obligés d'aller chercher des variétés. Mais là, ils sont allés chercher chez des semenciers biologiques parce qu'ils ne vont plus avoir le droit d'aller chez les conventionnels. Et ils ont testé une dizaine de variétés sur une ferme. Et notamment, on les a aussi goûtées. Les agriculteurs ont fait des dégustations en novembre sur ces carottes-là. Et donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est... que vous vous rendiez compte finalement que cette diversité génétique, elle existe. C'est-à-dire qu'on a une espèce carotte et on a 8 variétés. Et vous allez voir qu'en termes de jutosité, de sucrosité, on dit sucrosité parce que c'est la sucrosité perçue. Il y a un vocabulaire très particulier en analyse sensorielle. En termes d'arôme épicé, vous allez voir qu'il y a des différences entre ces variétés-là. Et j'ai mis un petit questionnaire aussi pour évaluer vos préférences, juste pour voir si les carottes que vous préférez correspondent à celles des agriculteurs. Voilà, donc c'était l'occasion, donc j'en ai profité pour vous proposer cette dégustation. Alors, une population, c'est un ensemble d'individus génétiquement hétérogènes, mais qu'on pourrait rassembler quand même sous un minimum dénominateur commun. Donc par exemple, le rouge de Bordeaux, c'est une variété ancienne, on va appeler ça, mais en fait c'est une variété population. Le rouge de Bordeaux, sa caractéristique, c'est quand même, il a à peu près, il y a des grands et des petits, mais il est rouge, il a une forme de grain, on peut le caractériser, il y a un minimum dénominateur commun entre les individus. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de cadre législatif pour ces populations, parce qu'on ne peut pas les cadrer. Et que la loi veut cadrer, ces populations, comme elles évoluent, si on inscrit une population, on inscrit une autre, il y a un moment donné, forcément, comme elles évoluent, elles vont se croiser. Et donc, cette dénomination ne vaut plus rien. Et c'est là où il y a un gros problème. Et au niveau des projets européens, on discute avec les politiciens pour réfléchir à un cadre législatif pour ces semences. Parce que c'est vraiment un problème actuellement. On a le maraîcher a le droit de les utiliser, de les transformer, de vendre le produit transformé pour le pain comme pour les légumes. Mais il n'a pas le droit d'échanger ses semences, de les vendre. À partir du moment où c'est en circuit fermé, ça va, en fait. Parce que l'histoire du catalogue, c'est une assurance business to business. C'est-à-dire que l'individu qui va acheter ses graines, il est certain à 90%, à 99% qu'elles vont germer ses graines. Et c'est vrai qu'en sélection paysanne, on n'est pas dans ces mêmes... Enfin, c'est pas... On est déjà dans un réseau de confiance. Et du coup, ce niveau-là, cette certification-là... n'a pas d'intérêt dans les réseaux paysans dans lesquels on est, parce que c'est vraiment basé sur la confiance. Et ce système-là de catalogue a été mis pour limiter les fraudes, quoi. Mais par exemple, dans le cadre d'une filière intégrée paysan-boulanger, le paysan-boulanger a tout à fait le droit de sélectionner, de développer ses variétés. Par contre, s'il n'introduit pas de la diversité dans son champ, son blé risque de... Et du coup, il y a quand même une nécessité d'introduire, et c'est là où il y a des limites législatives. Il ne devrait pas pouvoir réintroduire des... Enfin, il devrait rester en circuit fermé. Mais l'Imagrain joue beaucoup de cette loi de filière intégrée, parce que l'Imagrain ne dépose jamais ses variétés au catalogue, parce qu'ils ont une filière intégrée, ils développent des variétés spécialisées pour leur filière, qui donnent directement à leur meunier, qui transforment, et du coup, ils n'ont pas besoin d'inscrire au catalogue leurs variétés. Donc c'est ce qu'utilisent les paysans boulangers aussi, enfin c'est tout à fait, ils ont le droit. En petite quantité, c'est pas précisé dans la loi. On a le droit de faire des échanges en petite quantité. Par contre, on a tout à fait le droit dans un cadre expérimental. Donc nous, on fait pour l'instant tout le temps dans des cadres de projets expérimentaux. Mais dans ces projets, il y a toujours un volet qui travaille justement sur ce cadre législatif pour qu'à la sortie de ces projets, nos variétés, elles soient légales, quoi. Mais pour l'instant, une partie est légale et d'autres, il faut continuer à travailler sur cette inscription. C'est vrai. Bah là, je travaille aussi un peu avec des maraîchers, mais c'est vrai qu'il y a maraîchers bio et il y a maraîchers paysans bio, c'est-à-dire que dans le réseau semences paysannes, la plupart, ils produisent leurs semences. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, je sais que la plupart des maraîchers bio vont acheter leurs plants, mais les maraîchers avec qui je travaille, donc qui sont un peu intégrés au réseau semences, enfin qui sont intégrés au réseau semences paysannes et qui font partie des croqueurs de carottes, qui sont également des semenciers, Germinance, enfin c'est des boîtes de semences biodynamiques entre autres. Mais ces gens-là, c'est eux qui vraiment, ils sélectionnent dans leur, ils font leur propre variété. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est réduit à ces agriculteurs-là dans mes cadres de recherche. Mais effectivement, comme pour le cas de la filière blé, il y a cette question de changement d'échelle. Auquel il faut réfléchir et pour l'instant en blé on commence à avancer et là en maraîcher je reste dans le cas assez particulier du sélectionneur maraîcher quoi. Enfin, mais effectivement ça fait partie des suites à venir quoi. Enfin, des suites à travailler là par exemple on a un essai tomate où on voulait comparer des variétés cœur de bœuf hybrides et anciennes. Je crois pas qu'on ait mis du sulfate de cuivre. On essaye de les cultiver assez espacés. Alors non, il y avait différentes cultures, en plus culture sur but, etc. Mais on a eu des problèmes de mildiou, effectivement. Mais là, comme on est dans un cadre expérimental, c'est pas pour la production. Et en plus, comme on est sur les premières générations, il faut les développer. Donc c'est effectivement normal qu'on arrive à récupérer que quelques fruits en début de sélection qu'on va tester sur le plan aussi nutritionnel, sensoriel. Et après, on va essayer d'aller vers une variété plus stable, justement, peut-être croisée avec une variété qu'on a repérée tolérante au mildiou. Effectivement, pour l'instant, on repère des qualités particulières sur certains individus. Après, on va croiser parce qu'on vient croiser manuellement quand même avec un petit pinceau, etc. C'est de la sélection massale hein, qui est naturelle. On vient choisir un père et une mère pour essayer de croiser des caractéristiques qui nous intéressent. On le fait pas avec c'est un peu au hasard. Enfin, pas tant au hasard, mais il y a quand même un facteur de hasard. Et on va arriver à des variétés au bout de 3-4 ans qui sont résistantes au mildiou, qui ont une qualité nutritionnelle particulière, qui sont très adaptées à ce sol-là et qui ont... Mais c'est au bout de 3-4 ans. Et effectivement, c'est en associant des particularités, parce qu'on va vraiment... c'est un travail de longue haleine. Hein. Mais après, une fois que ces variétés-là, elles sont développées, elles sont adaptées, il n'y a presque plus rien à faire. Et en plus, elles se vendent bien. Les OGM, ça n'a rien à voir. OGM, on va introduire un gène d'une espèce différente dans le gène de la plante. Donc, on va mettre le gène d'une bactérie dans le gène d'une tomate. C'est ça. Après, il y a des techniques. On va mettre de la colchicine pour essayer de fusionner des noyaux. Il y a plein de techniques chimiques en agriculture biologique qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour sélectionner en agriculture biologique. Et la sélection massale, en fait, c'est ce qui se passe naturellement dans les champs. C'est-à-dire que les plantes, justement, elles vont se croiser. C'est ce qu'on fait dans le blé. On ne vient pas s'amuser à féconder chacun. C'est justement les blés qui se croisent entre eux et qui vont évoluer. Après, quand on est au début de la sélection, c'est pour accélérer vers l'idéotype qu'on veut, parce qu'autrement, effectivement, ça va se faire, mais on aura une chance sur 100, finalement, que cette variété-là, qu'on a repérée avec cette variété-là, va se croiser, parce que c'est le hasard de la nature. Mais nous, on vient juste un peu forcer le hasard, mais c'est tout à fait... On n'accélère pas. On dit... On fait se rencontrer, on fait un arrangement, on fait un dating entre deux tomates, quoi. Mais c'est tout à fait naturel. Autrement, on pourrait les mettre juste à côté, on les plante à côté. Et voilà. Enfin, mais comme on les a, il faut d'abord les voir au champ avant de les croiser, il faut les déguster. Ça demande tout un timing. Du coup, ça permet de le faire en 3 ans au lieu de 4-5 ans. Parce que la sélection naturelle, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est qu'au final, les tomates, les grosses tomates qu'on a maintenant, avant, c'était des toutes petites tomates sauvages. Elles se sont croisées au fur et à mesure. Puis l'homme a trouvé que celle-là, elle était plus charnue. Donc, il l'a croisée avec une autre. Et on a abouti à des tomates qui sont très charnues, avec peu de grains. Voilà, c'est quand même... Il y a toujours une sélection humaine. Comment on récupère les variétés anciennes? Alors, pour le blé, en fait, il y a des banques génétiques, des banques BRG, banques de ressources génétiques. Celle du blé, elle est à Clermont, à l'INRA. N'importe qui peut envoyer, demander tel grain, il demande le catalogue et il lui dit « je veux telle variété ». Et l'INRA, par courrier, envoie une toute petite quantité, hein, 10-15 graines. Et c'est pour ça, donc, si on a vraiment envie de les développer, pour passer à l'échelle de 1 hectare, il faut bien 3 ans. Pour développer ces graines. En plus, elles sont congelées, effectivement, et du coup, leur capacité germinative a diminué. Donc, c'est vraiment pas évident. Justement, des fois, il y en a 2-3 qui germent, et là, on va repartir de ces 2-3 qui germent pour les remettre en champ, et après, elles vont évoluer. Et là, ça va devenir après une variété paysanne. On parle plus de variété ancienne parce que nous, on les travaille. La base, après, change. Donc, on parle de population paysanne. Eh ben, en termes de stabilité, alors pour le blé, donc vraiment j'ai vraiment étudié ça. Au niveau des performances agronomiques, on a vraiment démontré une stabilité des performances, c'est-à-dire du rendement, à partir de 2-3 ans. Mais on a comparé avec des variétés modernes et surtout ce qu'on a montré, c'est que les variétés anciennes, les populations, optimisaient vraiment le potentiel des sols pauvres. C'est-à-dire que des variétés modernes qu'on met sur des sols pauvres, elles vont vraiment s'effondrer, que des variétés anciennes, elles vont tenir le coup et elles vont bien tenir le coup. Après, en termes de qualité, c'est très différent parce que justement, il y a la diversité génétique dans le champ, il y a les conditions climatiques qui vont jouer sur la disponibilité en azote, qui vont jouer sur la tenue de la pâte, il y a tout plein de choses qui font que justement, c'est intéressant. Dans le cas d'une filière paysan-boulanger, le paysan-boulanger s'adapte chaque année et même à chaque récolte, il s'adapte à sa farine. Et c'est vraiment l'expérience qui fait qu'il va pouvoir faire du bon pain et un pain de qualité similaire. C'est vraiment extrêmement technique. Et le problème du changement d'échelle, et c'est ce que je dis souvent, on travaille là sur la filière, ce que je dis, c'est que si les boulangers veulent s'y mettre, soit il faut qu'ils se disent qu'il va falloir qu'ils changent, qu'ils s'adaptent et qu'ils modifient leurs pratiques, parce que jusqu'à présent, ils sont habitués à avoir une farine de qualité homogène et à appliquer une recette de techniciens. Et du coup, si on veut introduire ces céréales anciennes dans une filière longue, c'est très compliqué. Mais on est en train de travailler là-dessus. Et moi, je réfléchis peut-être à une cellule de meunerie ou une cellule de dégustation qui pourrait dire cette année, le blé de telle qualité, on va mélanger quand même telle variété ancienne avec telle variété ancienne et donner un peu des conseils de panif aux boulangers. Je vois que, enfin, pour moi, c'est le seul moyen de lever ce verrou technique. Mais effectivement, moi, ma question, c'était d'arriver à stabiliser la qualité. Et la stabilisation, elle se passe par l'expérience du paysan boulanger. C'est voilà. Mais après, ça donne des goûts des pains vraiment particuliers. Quand on prend un tout petit peu de grain de là et un petit peu de grain de là, généralement, on les mélange parce qu'en plus, il y a un très faible taux germinatif, etc. Il vaut mieux tout mettre en champ et optimiser. Après, c'est vrai que pour différencier, ça va être... C'est différent. Mais au début, si tu veux bien quand même, si tu veux multiplier population par population, tu prends ton sachet de graines, tu le mets dans le champ. Et année après année, tu augmentes, tu multiplies tes quantités de semences. Au bout d'un moment, tu as un hectare. Et là, en fait, les paysans boulangers, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils mettent en place une collection de blé. C'est-à-dire que dans leur champ, tous les ans, ils ont une trentaine de populations en micro-parcelles de 1 mètre carré. Et ils vont les observer tous les ans. Et ils ont leur mélange en champ pour leur boulange, qui tous les ans, ils vont le réamender avec ce qu'ils ont observé dans leur collection. C'est-à-dire que cette année, dans ma collection, il y a celui-là et celui-là qui est bien. Je vais essayer de le multiplier et je vais le rajouter dans mon mélange boulange. J'appelle ça mes mélanges boulanges. Donc c'est son mélange qu'il met au champ et qui va transformer. Il a vraiment d'un côté la collection où il observe les différentes variétés et il voit laquelle il aimerait rajouter dans son mélange et l'autre côté son mélange en production. Et c'est ça qui permet aussi de faire varier la diversité génétique, d'augmenter, parce que souvent, au bout de 3 ans, on va voir qu'il y a une diminution de la diversité. Finalement, les génotypes qui étaient très adaptés à l'environnement sont restés, et ceux qui étaient mal adaptés ont disparu. Donc on a aussi un déséquilibre génétique. Et donc, on va essayer de ramener souvent d'autres variétés dans les mélanges pour jouer sur la diversité génétique. Projet européen. Ça fait 3 projets européens qui se suivent avec où c'est vraiment le cœur de mes travaux. On a des projets régionaux. ANR, Agence nationale de la recherche sur le levain, c'est des financements pas trop CASDAR, pas développement agriculture, hein, c'est plutôt des financements privés. On essaye de chercher aussi Olga Tribala ou Fondation de France. On va de plus en plus vers des fondations. Mais on récupère des petits financements par-ci, par-là, qui permettent finalement de financer des actions, mais qui sont en cohérence entre elles. Et on a un projet global qui est composé de plein de petits projets, justement, parce que c'est ces problèmes de financement, de vision à court terme, long terme. On est financé sur 2 ans, sauf que nous, on est sur des projets qui sont sur plus de 5 ans. Moi, ça fait plus de 6 ans que je travaille sur le blé. On continue. Et là, on est en train de tester sur le plan nutritionnel et sensoriel les variétés paysannes issues de 10 ans de sélection paysanne. Des stars du réseau semences paysannes qu'on entend souvent à France Inter, ils ont chacun leur petite variété qu'ils ont développée depuis 10 ans. Et là, on est en train vraiment d'essayer de voir si elles ont une supériorité nutritionnelle ou sensorielle, enfin leur particularité. Est-ce qu'elles sont particulières? Est-ce que cette sélection-là, elle a amené à améliorer la qualité finalement de ces blés? Ah oui, projet de recherche, on marque, c'est tout sur papier avant qu'on commence le projet, hein. On dit que tous les résultats, ils sont disponibles à tout le monde. Justement, dès qu'il est question de brevetage, on dit, on insiste, non, tous les résultats sont disponibles à tout le monde. On fait en sorte que dans nos projets, ça, c'est une condition minimum. Il n'y a pas de brevet. La pression des lobbying, on le ressent. Le réseau Semences Paysannes est en train d'essayer de constituer une marque Semences Paysannes avec Biocoop. Ils vont essayer un peu de se protéger comme ça, là, c'est vraiment en cours. C'est plutôt par rapport à des groupes industriels, effectivement, comme des grands céréaliers qui vont commercialiser des blés anciens. J'ai déjà vu dans une grande surface une farine où il y avait marqué Rouge du Roc. Et Roc, c'est la ferme d'un paysan boulanger et c'est vraiment un blé d'un boulanger. Et on s'est demandé comment il est arrivé là. Mais après, on est quand même sur la semence libre. Donc, ils vont essayer de trouver un compromis, quoi. Parce que, voilà. Mais là, justement, il y a tout un travail sur une marque. Entre le réseau Semences Paysannes et Biocoop. Et voilà. Il y a le brocoli, la carotte violette de la Loire qui est dans cette boucle-là. On va le tester. Il y a des projets français, européens dans tout ce que je vous ai présenté. L'expé tomate, par exemple, elle est en France, mais on a des partenaires en Europe qui font des expérimentations similaires en Finlande, en Angleterre, un peu de partout, selon un protocole qu'on essaye de calibrer ensemble pour essayer d'aboutir à des comparaisons, enfin vraiment à avoir un multi-réseau. Parce que l'objectif, c'est de vraiment de développer des systèmes alimentaires locaux, diversifiés, ancrés dans le territoire. Nous, notre objectif de l'agriculture, c'est plein de petites polycultures élevage qui fassent... c'est l'optimum vers lequel on veut aller. Et la Véronique Chable, donc c'est elle qui est dans l'intitulé, parce qu'on avait fait cette présentation à un colloque ensemble. Et Véronique Chable, donc c'est une chercheuse à l'INRA, donc c'était ma directrice de thèse, et elle travaille énormément sur ces problématiques-là, arrive à obtenir des projets européens, donc des gros budgets à 7 millions, continue, c'est-à-dire qu'on en est au 3e projet européen. Et c'est vraiment c'est vraiment impressionnant et du coup on a toute une équipe maintenant. Il y a 3-4 chercheurs à l'INRA, à l'ITAB on est 3-4-5, on a tout un groupe de chercheurs. Le problème c'est qu'on se connaît tous bien, mais c'est vraiment finalement comme ça qu'on arrive à avancer avec l'Europe en plus l'agroécologie industrielle, etc. Et ben, il y a 3-4 chercheurs, non, il n'y a pas 3-4 chercheurs, il y a quelques chercheurs qui travaillent vraiment pour l'agriculture biologique. Alors il y en a qui sont officiellement, en plus, partenaire depuis la création du réseau Semences Paysannes, Véronique Chappe, Isabelle Godringer. Il y en a au moins 3 chercheurs à l'INRA qui, depuis la création du réseau Semences Paysannes, les suivent, font des projets avec eux et ont des problèmes au niveau de la direction, effectivement. Mais il y a une cellule à l'INRA aussi qui est en train de se mettre en place sur la recherche participative parce qu'ils sont en train de se rendre compte que ça peut être intéressant pour développer des produits adaptés au contexte. Hein? Et donc il y a tout ça qui est en train de se mettre. Non, en fait c'est que la base de la variété paysanne, c'est des variétés anciennes, des variétés de pays. Donc on va avoir en blé, on va avoir on a toute une collection de blé de Redon qui ont le nom de chacune des communes. Donc c'est vraiment la base de la sélection paysanne, c'est des ressources génétiques anciennes, donc qui existaient avant et qui ne sont plus cultivées, ou qui sont cultivées très peu et qui étaient mises dans une base génétique, et qu'on a remis en culture, et qu'après, on a croisé par la sélection humaine. Enfin, les paysans ont développé une nouvelle diversité paysanne, en fait. J'appelle plus ça des variétés anciennes, parce qu'on a croisé des variétés anciennes. Donc, à partir de ce moment-là, on est sur une nouvelle diversité. Et du coup, c'est là qu'on parle de variété paysanne. C'est là où on fait le switch, c'est parce qu'on a créé une nouvelle diversité. À partir d'une diversité ancienne qui existait, on a créé une nouvelle diversité. Dans notre cadre d'expérimentation, on pourrait, enfin, effectivement, en grand public, etc., on pourrait, mais c'est vrai que nous, c'est pour ça aussi la commercialisation, la marque Sélection Paysanne, c'est vraiment pour dire qu'il y a eu un travail de sélection, et notamment, on a intégré des critères de qualité nutritionnelle, de sensoriel et tout ça. C'est vraiment pour montrer le travail des paysans qu'il y a derrière. Avec la gastronomie, on aimerait bien. Moi, justement, je suis en train d'essayer de développer un peu ces branches-là. Il faudrait, mais pas encore.